Embarquement immédiat à bord de l'épisode 19 de l'expérience Schumann.
Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Schibann. Le podcast où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Bonjour Christophe et bienvenue dans l'expérience Schibann.
Bonjour Sébastien.
Alors jamais j'aurais cru pouvoir discuter avion pendant plus d'une heure avec le chef pilote d'essai d'Airbus dans les locaux de l'ENAC à Toulouse. C'est un grand honneur pour moi et un morceau du rêve de gosse qui se réalise. On va passer au contenu de l'épisode assez rapidement, mais je tenais à te remercier d'avoir accepté notre invitation et j'espère que l'auditeur appréciera cet épisode avec toi.
Je t'en prie, merci Sébastien.
Alors après un diplôme d'ingénieur à l'ICAM, tu as débuté dans le pilotage en tant que pilote de chasse dans l'aéronaval. Tu es donc issu du cursus ORSA, aujourd'hui appelé EOPAN, petite référence à l'épisode numéro 1 avec Patrice pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Après une petite dizaine d'années en tant que pilote opérationnel, tu as candidaté et a été sélectionné pour aller faire l'EPNER, l'école du personnel navigant d'essai de réception. C'est l'école historique française des pilotes d'essai. Après une formation très intense d'un an, dont tu nous parleras, tu deviendras pilote d'essai pour le compte de la marine, du Rafale, du E2C Hawkeye et du super étendard modernisé. Un peu plus tard et en parallèle, tu deviendras directeur des vols au Salon du Bourget en 2001, 2003 et 2005, avant d'être repéré par Airbus. Ça fait donc maintenant un peu plus de 15 ans que tu es pilote d'essai pour l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros récemment, avionneurs mondiaux. Il y a environ 5 ans, tu es même devenu chef pilote d'essai et c'est très récemment, il y a quelques jours seulement au moment où on enregistre cet épisode, que tu as rendu ton tablier de chef pilote d'essai pour devenir conseiller ou responsable de la sécurité des vols chez Airbus. Voilà pour un résumé de ton parcours, où j'ai dû évidemment beaucoup élaguer. Le temps étant malheureusement limité, il faut faire des choix et sur les sujets que l'on va aborder et je te propose qu'on parle aujourd'hui de la formation à l'EPNER, qui est connu pour être très intense et difficile, le métier de pilote d'essai au quotidien et ce que ça implique, tes trois salons du Bourget en tant que directeur des vols et du futur du pilotage dans les prochaines générations d'avions. Programme très chargé aujourd'hui, alors c'est parti sans plus attendre pour cet épisode 20 de l'expérience Schibann. Ma première question, pour commencer, comment en es-tu arrivé à te dire que tu voulais faire l'EPNER, à devenir pilote d'essai ?
Alors, comme tu l'as rappelé, Sébastien, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur, l'ICAM. J'ai toujours été attiré par la technique, j'ai toujours fait ça. Le vol est quelque chose que j'avais en tête, en fait, assez petit, mais qui a disparu. Et j'avoue que je suis parti dans une autre voie. Et lors de mon service militaire, j'ai été embarqué sur le porte-avions Foch, où je me suis retrouvé responsable des freins d'appontage, puis en mer, chef de car aux catapultes. Là, je me suis dit, non, vraiment, là, il faut que je monte dans les avions, je veux aller dans les avions. Donc, en fait, j'étais déjà diplômé ingénieur, et à l'issue du service militaire, j'ai postulé, j'ai réussi à rentrer dans la marine. Donc, voilà, donc je me suis devenu comme ça pilote de chasse, mais j'avais toujours en moi quelque chose qui m'attirait vers la technique, comment ça vole les avions, comment ça marche. Une petite truc derrière la tête qui me disait « je voudrais faire l'EPNER ». Ensuite, j'ai rencontré tout simplement des gens. Hein, la vie est faite de rencontres, bien souvent, qui stimulent les envies, les passions. Et j'ai rencontré comme ça quelqu'un qui s'appelle Claude Martin, qui était d'ailleurs anciennement pilote de chasse dans la marine, pilote d'essai au centre d'essai en vol, et également directeur des vols de Salon de Bourget. Et lui m'a vraiment donné l'envie de faire pilote d'essai. J'ai réalisé que c'était possible. Donc j'ai postulé lorsque j'étais dans la marine. Une fois que j'ai atteint le niveau de chef de patrouille sur super étendard, j'ai postulé pour entrer dans cette école prestigieuse, c'est vrai, de l'EPNER.
C'est un thème assez récurrent dans le podcast, finalement, les rencontres qui font qu'on se dit ben, c'est possible, on va tenter. Et du coup, une fois que tu as tenté, comment se déroule la sélection ?
Alors, ça dépend un petit peu de l'armée. Je dis de l'armée, c'est-à-dire il y a à la fois d'un côté l'armée et de l'autre côté la marine. Lorsque j'étais dans la marine à ce moment-là, la marine essayait de présenter un candidat pour une place. Généralement, à cette époque-là, il y avait une place par pilote de chasse marin à l'EPNER. Donc j'ai été sélectionné dans la marine, tout simplement sur dossier. Ça fait partie, c'est un peu dans les plans de carrière des uns et des autres, la direction du personnel militaire de la marine. A décidé de me confier ça. Donc moi, la sélection, une fois que j'étais inscrit, j'ai fait la sélection qui se déroule en deux temps. D'abord, un examen au sol, théorique, qui est un petit peu complexe, parce qu'en fait, il est pas scolaire du tout. Il est vraiment pas scolaire, et on demande beaucoup de bon sens, de jugement. Bref, et aussi des connaissances théoriques, hein, type maths-sup, maths-sp. Donc là, il faut beaucoup travailler pour ça. Et on a un examen à l'EPNER. Une fois qu'on réussit cet examen, on a ensuite un test en vol. On avait même deux tests en vol. Sur des avions qui ne sont pas des avions sur lesquels on a l'habitude de voler. Donc pour moi, comme pilote de chasse, j'ai fait un vol sur Nord 262 et un vol sur PC-7. Alors le Nord 262, et ben dès le premier vol, on fait, dès le premier décollage, c'était une panneau décollage, hein, ça commençait bien. Et en fait, on regarde, l'instructeur qui est là regarde comme le pilote va se débrouiller sur une machine qu'il ne connaît pas. Comment il va avoir sa division d'attention, comment il va faire appel à l'autre pilote pour l'aider, et donc sa capacité finalement à découvrir, à analyser ce qui se passe en temps réel. Et l'autre vol, c'était un vol sur PC-7, lors duquel on nous demandait d'aller faire une boucle. Oui, non, pardon, il y avait une boucle, mais il y avait surtout un renversement. Et lorsqu'on faisait un renversement de ce côté-là, l'avion partait en vrille d'eau. Évidemment, on ne le savait pas à l'avance. Et là, on essaie de regarder comment ça allait se passer, la vrille d'eau, comment ça allait se débrouiller le candidat à l'EPNER. Voilà. Donc la sélection se passe comme ça.
D'accord. Donc en deux parties, une partie théorique, une partie pratique. C'est souvent le cas pour des sélections pilotes, mais là, c'est un autre niveau quand même. Et une fois cette difficile étape passée, la formation commence. Est-ce que tu peux nous raconter cette année exceptionnelle et comment tu l'as vécue?
Alors, c'est une année très, très dense parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup. Elle est divisée en trois parties, trois trimestres, tout simplement. Avant de commencer vraiment cette année scolaire-là, on a une petite, un stage que l'on effectue avant. Et en fait, on effectue un stage IFR parce que, venant d'un avion de chasse, j'avoue que l'IFR, mis à part suivre les instruments d'un avion de chasse, on ne savait pas trop faire. et donc on a une phase d'instruction sur Nord 262 à l'époque, hein, maintenant c'est d'autres avions, où on fait un IFR. Bon, on met ça de côté, et ensuite on commence vraiment la formation à l'EPNER. Je parlais des trois phases. Il y en a une première phase, il s'agit de, globalement, de performance avion. La deuxième phase, des qualités de vol avion, et la quatrième, dernier trimestre, des évaluations globales d'un avion. Alors, pour ce faire, à l'EPNER, on avait disposé des moyens du CEV, à Istres à l'époque, bon, c'était en 93-94, et on avait à disposition, on était lâchés sur un certain nombre de machines, notamment tous les pilotes stagiaires, pilotes d'essai, étaient lâchés sur Cap 10, sur Alpha Jet, Mirage 3, et Nord 262. Voilà, donc c'est les quatre avions sur lesquels on était lâchés. C'était nos avions de base, après on faisait d'autres avions. Et donc, sur ce premier trimestre-là, on apprenait à faire des mesures de performance sur des avions. Donc d'abord, on apprenait les machines pour se faire lâcher. Et ça paraît peut-être bête, mais le lâcher Cap 10, ce n'était pas le plus simple quand on vient de la chasse. Même si le Cap 10 a été, pour la plupart d'entre nous, c'était mon cas, le tout premier avion sur lequel j'ai fait ma sélection dans la marine. Mais j'avoue que faire du Alpha Jet était beaucoup, beaucoup plus facile que d'aller faire du Cap 10, poser le Cap 10 par vent de travers. Voilà, donc c'est le premier trimestre où on fait des mesures de performance, on apprend à faire de la mesure de performance en vol. Deuxième trimestre, on apprend à faire sur ces avions et sur d'autres avions qu'on loue ou sur lesquels on va voler à l'extérieur, à faire de l'appréciation des qualités de vol d'un avion. Et donc savoir comment ça vole, c'est quoi l'effet du roulis, du manche, des gouvernes, du moteur, et comment est-ce qu'on apprécie la facilité qu'on a à poser un avion, à le décoller, à faire des virages, bon bref, les qualités de vol. Et le dernier trimestre, eh bien, une fois qu'on a banalisé un petit peu tout sous ces outils pour mesurer de la performance, apprécier les qualités de vol, on va faire des évaluations globales d'un avion. On va nous dire, voilà, cet avion-là, moi je le veux, ou je voudrais l'évaluer pour telle ou telle mission. Et vous allez me dire si cet avion-là, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts pour cette mission-là. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas qualifier un avion de bien ou pas bien, d'adapté, pas adapté, si on ne le qualifie pas pour une mission donnée. Voilà. Alors, je donne un exemple, on reviendra peut-être parce que je crois que tu voulais m'en parler, d'un vol d'évaluation qu'on fait à la fin de l'EPNER. On nous dit, ben voilà, vous avez le Transall et on vous dit, voilà, nous, on voudrait en faire un bombardier d'eau. Est-ce que cet avion est adapté à la mission? Donc, voilà un type d'évaluation globale que l'on fait à l'EPNER.
Et ça prend combien de temps à peu près? J'imagine que ça dépend de l'avion et de la mission, mais c'est quelques jours, quelques semaines?
Alors, ça se mesure en vol. Ça dépend de la profondeur à laquelle on veut aller, bien sûr. L'évaluation finale ou d'un avion, l'évaluation complète d'un avion que l'on fait en fin d'EPNER, qui n'est pas le tout dernier, qui n'est pas le test, mais qui est une épreuve importante à la fin et où généralement on va à l'étranger dans une autre école de pilotes d'essai ou dans une autre armée pour voir quelque chose de complètement différent. Pour ma part, je l'ai fait sur Tornado GR1. Qui est un avion d'attaque au sol. Et ça, j'avais droit à 4 ou 5 heures de vol, ou 4 ou 5, je crois que c'est 4 vols, 5 heures de vol. Charge à soi de se dire, bah, tiens, voilà, je vais organiser, je vais faire dans tel vol, voilà ce que je vais regarder. Donc, l'ordre de grandeur, c'était 4-5 vols.
On peut imaginer qu'une formation aussi complexe requiert une équipe enseignante d'un haut niveau. Qui est responsable de votre instruction au sol et en vol? Des ingénieurs? Des techniciens de haut niveau, des pilotes d'essai chevronnés, aussi connus sous le nom de Shiban?
Alors, d'abord, l'EPNER ne forme pas que des pilotes d'essai, mais tous les personnels navigants d'essai de réception. Donc ça forme, en plus des pilotes, des ingénieurs navigants d'essai, des mécaniciens navigants d'essai et des expérimentateurs navigants d'essai. Donc, on retrouve au sein de la direction et de l'encadrement de l'école ces personnels-là. Donc le chef pilote est un pilote d'essai, bien évidemment. Le directeur de l'EPNER est un pilote d'essai aussi. Et le responsable de l'instruction au sol est un ingénieur navigant d'essai. Donc ce sont effectivement que des personnels des essais en vol.
Et tu disais un expérimentateur d'essai, c'est ça? Qu'est-ce que c'est?
Alors l'expérimentateur d'essai, c'est lui qui va être en charge de l'installation d'essai. Donc, il va être en charge de monter l'installation d'essai, de voir quel type d'installation d'essai il faut en fonction du type de vol que l'on a. Et donc, c'est son domaine d'expertise pour les vols d'essai. L'ingénieur d'essai, lui, c'est lui qui va avoir une vision un peu plus de haut niveau en traduisant avec le pilote d'essai les demandes d'un bureau d'études, par exemple, en type de point d'essai. Donc il va dire, ben voilà, moi, pour arriver à tel résultat, j'ai besoin de faire tel vol, tel type de vol, d'aller faire tel ou tel type de mesure. Ça, c'est l'ingénieur d'essai et qui va leader le vol d'essai. Et le mécanicien navigant d'essai est un mécanicien navigant, comme on en avait autrefois dans les écoles PICA 3. Nous sommes, et encore on en reparlera peut-être après, mais nous sommes encore chez Airbus, par exemple, on a des équipages à 3 en essai en vol. À 3. Donc on a un mécanicien navigant d'essai et tous les 3 font vraiment partie intégrante de l'équipage de mise en œuvre de l'avion et de conduite de l'avion.
Le mécanicien navigant d'essai, c'est celui qui connaît par cœur l'avion, entre guillemets?
Alors il connaît par cœur l'avion.
Ouais.
Par exemple, je donne un exemple, moi j'aime bien sur... et ça c'est vraiment la caractéristique de notre pratique essai en vol, de la culture essai en vol que l'on a en France, où on a le mécanicien navigant d'essai qui connaît parfaitement ce modèle, c'est-à-dire ce prototype-là, il est affecté à un prototype. Donc il connaît le prototype, il connaît la configuration exacte qui peut changer un peu tous les jours, tel type de calculateur qu'on change, etc. Et il connaît parfaitement les limitations de l'avion. Également, c'est lui qui est en charge de la relation avec les équipes de maintenance. Donc lui, voilà, c'est la machine, il connaît la machine. Après, on a l'ingénieur d'essai qui, lui, est un expert dans son domaine. Ça peut être la mesure de performance. Performance au décollage, performance de freinage, performance en croisière, peu importe. Et puis, on a le pilote d'essai qui, lui, a une connaissance beaucoup plus vaste. Il connaît comment opérer l'avion, mais il ne connaît pas tous les détails en profondeur de l'avion. Donc ça va être aidé, donné par le mécanicien navigant d'essai. Et dans la technique d'essai, évidemment, il connaît les techniques d'essai, mais il va être aidé par l'ingénieur sur comment réaliser tel ou tel point d'essai. Donc finalement, on a 3 types de personnes dans ces avions-là, dans nos essais, et c'est une espèce de matrice qui permet de couvrir l'ensemble des compétences.
Et est-ce que ces rôles peuvent être interchangeables, vu qu'il y a quand même quelques compétences en commun entre les mécaniciens, les ingénieurs, les pilotes, ou vraiment chacun a son boulot à faire et pas forcément capable de remplacer l'autre.
Alors, chacun a son boulot à faire, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des évolutions de carrière ? Oui, c'est possible. Mais généralement, les gens restent dans leur métier, creusent leur métier, sont de plus en plus spécialistes dans leur métier.
Et tu as fait, comme tu le disais au début, une formation d'ingénieur avant. C'est une condition sine qua non pour devenir pilote d'essai ?
Alors oui, pour être pilote d'essai, il faut être ingénieur à la base.
D'accord. Pour rentrer à l'EPNER ou pour trouver
oui, un pour rentrer à l'EPNER.
Pour rentrer à l'EPNER, ok. Et pendant ton apprentissage, est-ce qu'on te laisse beaucoup d'autonomie dans la manière d'apprendre à l'EPNER, dans la manière de faire les choses au final, ou c'est très standardisé et tous les pilotes en sortie de l'EPNER sont quasi interchangeables parce qu'ils ont appris la même chose, ils ont les mêmes compétences ?
Alors la question est intéressante parce qu'à la fois, on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est assez formaté. Mais je ne vais pas dire qu'on n'est pas tous interchangeables à l'issue. Pourquoi ? À l'EPNER, on ne nous apprend pas à piloter. On sait piloter. On nous apprend des techniques d'essai. On ne nous apprend pas, on ne nous donne pas un background. Le background, on l'a déjà. On a chacun une expérience. Et ensuite, notre métier de pilote d'essai va être, avec l'expérience qu'on a, appliquer les méthodes d'essai qu'on a apprises à l'EPNER pour... finalement, faire notre métier. Donc, on n'est pas interchangeable dans la mesure où on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous le même background.
Chaque pilote de l'aéroclub à l'aviation de ligne ou même dans la chasse se doit de passer de longues heures en formation, en QT, en transfo, pour être lâché sur un avion ou une catégorie d'appareil. En comparaison, et on l'a bien compris, les pilotes d'essai doivent au contraire être capables de piloter quasiment n'importe quel avion en un temps ridiculement court. Le test concluant la formation à l'EPNER représente bien cette exigence. Est-ce que tu peux nous raconter ce dernier vol en particulier, ce dernier vol à l'EPNER ?
Oui, alors c'est le vol que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il se passait pour ma part sur Transal, avion sur lequel je n'avais jamais volé. Donc en fait, on fait ça généralement sur un avion sur lequel on n'a jamais volé de manière justement à découvrir. Et c'est la réalité du métier après. Et donc on donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, on évalue un avion avec une mission, sinon ça n'a pas de sens. Donc la mission qu'on m'avait confiée, c'était cet avion, l'armée ou la sécurité civile voudrait se doter de cet avion comme bombardier d'eau. Donc allez évaluer cet avion et dites-nous ce que vous pensez de cet avion pour cette mission-là. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur la mission. C'est quoi la mission ? C'est quoi les caractéristiques ? C'est quoi les qualités qu'on attend d'un avion qui fait ce genre de choses ? Donc là, il y a un petit peu de travail en amont. Et ensuite, il faut un peu apprendre l'avion, parce que l'avion, on ne le connaît pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder c'est quoi le domaine de vol de l'avion ? C'est quoi ses caractéristiques ? C'est quoi ses limitations ? Très important, limitations de l'avion. Et donc on prépare à la fois comment voler cet avion-là, et aussi qu'est-ce qu'on va aller évaluer en vol. Donc, évidemment, c'est assez complet. Et c'est comme ça qu'on apprend à voler sur un avion sur lequel on n'a jamais volé. Alors, on est un peu aidé par le fait qu'on a volé sur beaucoup de machines. Moi, quand j'étais à l'EPNER, j'ai volé, je crois, sur 27 machines différentes, de types différents. Cap 10, Mirage 3, Mirage 2000, un Dornier, du Nord 262, de la Caravelle, de l'Airbus. Donc, voilà. Donc, on apprend à voler, à savoir et à voir ce qui est important dans un avion. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire comme un pilote de ligne qui doit parfaitement connaître son avion, parfaitement connaître les procédures. Nous, on a besoin de savoir l'essentiel. L'essentiel est, bien souvent, on peut être aidé par quelqu'un qui, lui, connaît l'avion. Il ne connaît pas les désenvols, mais il connaît l'avion. Donc, on se complète comme ça dans les compétences.
Pendant ta formation, tu as évalué des avions qui ont déjà été testés, qui donc étaient bons pour voler. Comment tu opères la bascule ensuite, quand tu es vraiment pilote d'essai, à évaluer des avions qui peut-être vont te surprendre ?
Alors, c'est vrai qu'on évalue des avions qu'on connaît, mais on apprend des méthodes à l'EPNER. C'est un avion qu'on connaît, mais on apprend la méthode. Et on applique ensuite, on essaie d'appliquer cette méthode sur un avion qu'on ne connaît pas. Ça a été mon cas aussi, j'ai parlé du Transal, mais aussi du Tornado, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt aussi. Avion que je ne connaissais pas, avion d'ailleurs qui est bourré de limitations. Il est assez intéressant de ce point de vue-là, cet avion-là. Et donc, on apprend finalement à aller à l'essentiel des avions. Et ensuite, quand on applique ça à un avion inconnu, qu'on ne connaît pas encore, moi ça m'est arrivé chez Airbus, notamment avec le Beluga, XL, on applique les mêmes méthodes tout simplement. Et on est armé, l'école nous arme bien pour ça.
D'accord. Tu es pilote d'essai, on te met devant un avion totalement inconnu. Qu'est-ce que tu fais avant d'aller voler ? Ensuite, une fois en l'air, qu'est-ce que tu regardes ? En gros, comment tu fais pour savoir si un avion vole bien au premier coup d'œil ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, d'abord, on va regarder les livres. On ne va pas tout lire dans les livres, mais on va regarder les caractéristiques principales. On va regarder les limitations de l'avion. C'est quoi son domaine de vol ? C'est important, ça, le domaine de vol. Comment, c'est quoi les limites des domaines, comment on apprécie les limites du domaine de vol ? Ben à basse vitesse, qu'est-ce qu'il a ? Un stick shaker, un stick pusher, un avertisseur de décrochage, je ne sais pas quoi. On va regarder aussi ben, son domaine d'emploi, il y a des volets, c'est quoi les domaines de chacune des configurations. Et déjà, ça nous donne une bonne idée. Ensuite, un avion, tous les avions volent à peu près de la même manière. Et quand on va être en vol, on va aller chercher ces limites. On a besoin de savoir assez rapidement c'est quoi les limites de l'avion. Donc, on va aller faire des basses vitesses. On veut savoir comment l'avion se comporte à basse vitesse. Et de toute façon, donc on va prendre un peu de hauteur pour ça. Et je veux dire, quand on va revenir faire un atterrissage, il faut connaître l'avion, il faut l'avoir testé dans cette configuration-là, à cette vitesse-là, bien avant d'être près du sol. Ça paraît évident, mais c'est... il vaut mieux le dire. Et donc, on va assez tôt, on va faire des décrochages dans un premier vol. On va aller décrocher l'avion pour savoir qu'est-ce qu'il a dans les tripes, comment ça se passe. On va aller aussi un peu dans les limites du domaine de vol, un peu plus haut, en vitesse, pour voir comment il se comporte. Après, on va regarder les qualités de vol. C'est-à-dire, on va regarder qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que moi, quand j'applique au gouverne, je demande de roulis, ça se passe comment ? Comment réagit l'avion ? Donc j'observe. Il y a beaucoup d'observations. Dans le métier de pilote d'essai, il y a énormément d'observations. Il y a de l'observation de l'avion, mais il y a aussi de l'observation de soi-même. En fait, on essaye, et ça fait partie des difficultés, c'est d'arriver à se voir piloter pour se dire oui, j'y arrive peut-être, mais pourquoi j'y arrive ? Non, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas ? Pas parce que j'y arrive pas que je suis mauvais pilote d'essai. Bah, hein, c'est pas forcément, parce que c'est peut-être justement il y a un défaut de l'avion. Donc on se place plutôt dans ce côté-là. Et on se dit aussi, moi j'y arrive comme ça, mais est-ce que moi je suis pas meilleur que le pilote moyen ? Alors ça paraît peut-être un peu arrogant de dire ça, mais il faut quand même se poser la question, parce qu'on sait qu'il y a des pilotes d'un peu toutes les expériences qui vont ensuite pratiquer nos avions. Et donc, il est important de se mettre à la place du pilote moyen, que ce soit un pilote de ligne sur un avion de ligne ou pour un avion de chasse. Mais voilà, donc on va regarder, observer l'avion, mais aussi s'observer voler.
Question pas évidente, mais comment tu te mets à la place du pilote moyen ? Comment tu évalues parce que par exemple, si tu testes un A350, il va être opéré, comme tu dis, partout sur Terre avec des pilotes plus ou moins entraînés, plus ou moins reposés au moment où ils vont aller voler. Comment tu te mets à leur place ? Est-ce que tu as des techniques en particulier ?
Alors, c'est un exercice assez difficile, hein, c'est vrai. Il faut à la fois, en vol, se dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'observer. Ce que j'ai fait, est-ce que finalement c'était difficile ou pas ? Ça m'a pris quelle charge de travail ? Et se dire, maintenant, j'ai un pilote, là, moi, ça a été facile, mais moi, là, je suis reposé. Il est 2 heures de l'après-midi. Le pilote qui va venir poser l'avion après une traversée de l'Atlantique, 8 heures de vol au petit matin, fatigué, est-ce qu'il va être dans le même état d'esprit ? Donc il y a cette démarche-là à faire. Il faut aussi avoir une connaissance des compagnies aériennes et des pilotes qui opèrent. Alors cette compétence et cette connaissance, comment est-ce qu'on l'a ? Soi-même en allant voler en compagnie. Alors on n'a pas tous volé en compagnie, vous avez compris que moi je ne suis pas d'origine pilote de ligne. En revanche, j'ai été volé pendant 2 ans chez Air Caraïbes, pour justement, alors avec un rythme assez faible, hein, je faisais un vol par mois peut-être, pas plus, et ça permet d'observer comment font les pilotes de ligne, c'est quoi leur réflexion, c'est quoi leur quotidien. Et aussi, on a un training center, donc un centre d'entraînement chez Airbus, avec des vrais pilotes de ligne, instructeurs, et donc le contact que l'on a avec eux nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut demander à un pilote de ligne, et qu'est-ce qu'on ne peut pas lui demander. Ça, c'est important. Mais c'est l'exercice qui est très difficile parce que quelquefois, ben, on pense qu'un pilote va réagir comme ça et puis dans la réalité, il réagit un petit peu différemment. Et ça, c'est pas toujours simple.
Je creuse encore un tout petit peu sur le sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Pendant tes 2 années chez Air Caraïbes, est-ce que tu as eu des surprises ? Est-ce que tu t'es dit « Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'on veut que vous fassiez ?»
Chez Air Caraïbes, non, je vais prendre un autre exemple où j'ai été volé. Il est peut-être plus intéressant celui-là parce qu'il me vient à l'esprit. Donc, ce n'était pas chez Air Caraïbes, mais j'étais volé dans une compagnie aérienne qui opère en Australie. Et j'étais faire, en fait, un vol d'observation. Tout comme on va en faire quelquefois, on va voir des compagnies aériennes. Alors, c'est plutôt chez nous, les gens des flight ops, des pilotes de ligne, instructeurs, examinateurs, qui vont faire ça avec des ingénieurs. Donc on va dans ces compagnies-là faire à la fois un vol d'observation, répondre à leurs questions, leur apporter des solutions à leurs problèmes qu'on connaît à l'avance. Hein, donc on vient avec les, on vient pas les mains vides et on va observer. Et alors moi j'ai été observer un vol. Je me souviens encore très très bien d'un vol sur 380 où l'anecdote est la suivante, c'est que on a, si vous, pour ceux qui connaissent le TICAS. Le TICAS, on peut observer, donc visualiser sur notre navigation display, on peut visualiser les autres trafics. Alors, il y a trois domaines. Il y a un domaine au-dessus de soi, un domaine au milieu, la tranche du milieu, et un domaine en dessous. Alors, quand on est tout seul dans le ciel, moi, j'ai envie de dire, le bon sens me dit, je suis tout là-haut dans le ciel, au plus haut, j'ai envie de regarder dessous. Donc j'affiche mon bilot, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut se passer? Soit il faut que je fasse une descente d'urgence, et j'ai besoin de rapidement regarder dessous, en tout cas avoir un préavis sur les avions qui peuvent être dessous, et puis il peut y avoir quelqu'un qui monte, quelqu'un qui descend, ça m'étonnerait, parce qu'il n'y a personne au-dessus. Donc voilà, et je m'aperçois que le pilote, il avait mis au milieu. Donc il voyait plus ou moins 2000 et quelques pieds, il ne voyait pas jusqu'à 10 000 pieds en dessous. Alors j'ai naïvement posé la question, mais je dis, mais pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu ne mets pas bilot? Il m'a dit, c'est écrit comme ça dans les documentations. Je me suis dit, bon zut, la documentation c'est la nôtre, qu'est-ce qu'on a bien pu écrire? Alors j'avoue franchement, quand on est pilote d'essai, la documentation de notre compagnie, Airbus, on ne connaît pas tout par cœur, et nos pilotes instructeurs connaissent bien bien mieux ça que nous, même si on participe, nous, à la rédaction de la documentation quand il s'agit d'éléments techniques. Et là, effectivement, je me suis rendu compte en posant la question que c'était écrit comme ça. Et lui m'avait dit, m'a répondu aussi, m'a dit, de toute façon, moi je fais comme c'est écrit, on n'est pas payé pour réfléchir. Et là c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, c'est peut-être un peu une boutade, mais c'est vrai que le pilote de ligne, quelquefois, il a, comment dire, dans un contexte tel que quelquefois il ne faut pas qu'il réfléchisse, il faut qu'il réfléchisse bien sûr, mais il faut qu'il applique ce qui est écrit. Et là, ça avait été même un petit peu au-delà de ce que moi j'estimais le bon sens, mais je pense qu'il avait raison d'appliquer ce qu'on disait, mais ça voulait aussi dire que nous, peut-être qu'on n'avait pas très très bien écrit, et donc il faut faire très attention à la manière dont on écrit nos procédures. Parce qu'ensuite, elles vont être appliquées à la lettre, parce que quelquefois on n'a pas tout le contexte, donc quand on n'a pas le contexte, il faut vraiment appliquer la lettre. Donc voilà, ça m'a fait un petit retour sur ce qu'on fait nous, en me disant, bon, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on écrit.
Mmh. Et est-ce que ça peut mener à des changements de documentation, ce genre d'événement?
Ah, bien sûr, oui. Mmh.
Alors j'ai une question, on change un tout petit peu de sujet, une question pas évidente. Avec toutes les compétences que tu as acquises à l'école des pilotes d'essai, avec tout le recul sur le pilotage que tu as pris durant cette période, est-ce que tu aurais des conseils pour un pilote qui nous écouterait, qui voudrait améliorer son airmanship, son bon sens d'aviateur, si on peut dire ça comme ça?
Alors, le bon sens, comment est-ce qu'on acquiert ce bon sens? D'abord, c'est basé un peu sur l'expérience. Il faut de l'expérience, c'est sûr. Et même avec de l'expérience, comment est-ce qu'on peut encore améliorer son bon sens? Moi, ce que je pense, que j'ai vraiment au fond de moi, c'est qu'il faut, et plus on arrive à comprendre comment marche la machine, plus on arrive à comprendre pourquoi telle ou telle procédure est écrite de cette manière-là, eh bien on va avoir un sens critique et on va pouvoir appliquer ce bon sens. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer les procédures, mais il faut comprendre pourquoi elles sont écrites. Il y a des situations exceptionnelles dans lesquelles les procédures, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Pas tout le monde est confronté à ça, heureusement, mais il y en a quand même, et là il faut revenir à l'essentiel. Et je pense que quand on comprend mieux comment marchent les machines, quand on comprend mieux pourquoi telle ou telle procédure a été écrite, on peut se dire, ben là, ok, ça c'est important, ça ne l'est pas. Il faut savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et si on a une simple lecture avec tout au même niveau, on ne va pas l'avoir ça. Donc, il faut être curieux, essayer de comprendre comment marchent les machines, et comprendre comment marchent les systèmes, et aussi d'essayer de comprendre les procédures, qui parfois, c'est vrai, sont un peu obscures. Quelquefois, les procédures, mais il faut au moins essayer de creuser au maximum.
Alors, je n'ai pas du tout d'expérience de pilote de ligne, mais j'ai des retours comme quoi, justement, c'est plus difficile éventuellement de comprendre les procédures Airbus que Boeing, parce qu'il y a beaucoup de boîtes noires, entre guillemets. Quel conseil tu donnerais aux pilotes qui ont envie de savoir comment ça se passe dans ces boîtes noires? Est-ce que c'est possible déjà? Parce que est-ce que le niveau de compétences requis n'est pas trop élevé?
Alors, c'est une bonne question, parce que les avions, plus ça va, plus on fait des avions compliqué. Alors attention, quand je dis compliqué, on fait des avions dont les systèmes sont complexes. Mais ce qui est important, c'est de faire un avion qui, pour le pilote, est simple. Et c'est là que ça devient compliqué, pardon, je vais utiliser le même mot, ça devient compliqué pour l'ingénieur, c'est-à-dire arriver à rendre simple à l'utilisation un système complexe. Alors pourquoi c'est complexe, les systèmes ? Ben parce qu'on essaye, on veut améliorer notamment la sécurité, on veut améliorer l'assistance aux pilotes, et pour ce faire, eh bien, ça complexifie. Et on a quand même vu au fil des années l'extraordinaire amélioration de la sécurité des vols grâce aux nouvelles technologies qu'on a mises dans nos avions depuis des années. Et donc ça, c'est un chemin qu'il faut continuer, qu'il faut garder. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on améliore, et on doit le faire aussi chez nous, à Airbus, améliorer. On a en permanence ce souci-là de faire en sorte que la documentation soit utilisable simplement par un pilote et que les systèmes soient compréhensibles par un pilote. Alors oui, il y a des choses, il y a des logiques qui sont appréhendables par le pilote, c'est-à-dire qui sont décrites dans la documentation. Il y a des choses qui ne sont pas décrites, parce que sinon ce serait beaucoup trop complexe. Mais ce qu'on ne décrit pas, c'est ce qu'on estime ne pas avoir besoin de décrire, c'est-à-dire que le pilote n'a pas besoin de le savoir pour arriver à comprendre ce qui se passe. Alors l'exercice est difficile, c'est délicat, on n'a pas toujours été les meilleurs, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Beaucoup en ce moment.
C'est ce genre de choix qui doit être assez compliqué, et ça va m'amener à parler un petit peu d'une idée que j'ai eue juste avant l'interview, le 737 MAX. Qu'est-ce qu'on décrit au pilote, qu'est-ce qu'on décrit pas au pilote? Bon, sur le 737 MAX, je suis pas du tout expert du sujet, mais en gros, le système MCAS qui avait été mis en cause pour les deux accidents a pas été décrit au pilote, ou pas suffisamment en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver chez Airbus?
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que cette tragédie, elle n'est pas une tragédie que pour Boeing, elle l'est forcément, elle l'est aussi pour toute l'industrie aéronautique et pour nous en particulier, dans la mesure où ce genre de choses nous rappelle comment on est fragile, et je crois qu'il faut être très humble de ce point de vue-là et pas être arrogant du tout. Donc il n'est pas question d'être arrogant. À chaque fois qu'il y a un accident ou un incident grave, évidemment, chez nous, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, et on va améliorer, mais également quand il y a un accident chez un concurrent. Et moi, on peut reprendre l'ensemble des accidents qu'on a eu dans la concurrence, hein, et à chaque fois, on s'est posé la question, est-ce que nous, on est susceptible d'avoir ce genre de choses? Est-ce qu'on pourrait pas, est-ce qu'on est bien armé contre ce scénario-là? Donc, je connais des tas de, on pourra en parler, mais il y a des tas d'améliorations que l'on a fait dans nos systèmes, quelquefois assez complexes, les améliorations, de manière à se protéger contre la cause d'un accident d'un autre avion, d'un autre constructeur. Et dans le cas précis du MAX, on s'est posé plein de questions, effectivement, et on a essayé de renforcer notre système pour vérifier que, eh bien, on essaie de faire le maximum. Voilà, on a atteint le maximum, on peut toujours s'améliorer. Donc on essaie de s'améliorer. Sur la base de ce qui s'est passé, on sait nous donner des recommandations. Il y a eu des recommandations, effectivement, des bureaux d'enquête américains, et on les applique. Et puis nous-mêmes aussi, on se donne des recommandations pour se dire, tiens, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a compris, et est-ce qu'on ne peut pas, nous, mieux s'armer contre ça. Donc oui, on a tiré des leçons de ces accidents, bien sûr.
C'est une des beautés un peu de l'industrie, c'est que ce qui se passe à l'autre bout du monde sert de leçon pour tout le monde, et,
oui.
Et c'est pas, Airbus ne fait pas exception du coup.
Non.
Bon, après cette année à Lepner, un peu chargée, et puis c'est un doux euphémisme, tu es envoyé pour travailler sur le programme Rafale Marine. Quel était ton job et quel rôle as-tu joué dans l'intégration de cette machine dans la Marine nationale française?
Alors je suis arrivé dans le programme en 1994, juste à la sortie de Lepner. Le démonstrateur Rafale a volé en 1986, c'était le Rafale A, blanc, pour ceux qui l'ont vu. Après, il y a eu le premier prototype vraiment du Rafale qu'on connaît aujourd'hui, qui était le C-01 qui a volé en 1991 pour la première fois. Ensuite, dans le développement, il y a eu des programmes des avions marines. Et quand je suis arrivé en 1994, on avait déjà commencé à voler. D'ailleurs, le C-01, c'est peut-être 89, je ne sais plus si c'est 89 ou 91, à vérifier.
On regardera tout à l'heure.
Voilà. Et donc le programme d'essai avait commencé. On travaillait à ce moment-là en équipe intégrée avec le constructeur Dassault. Donc moi, je faisais partie d'une équipe marine. Hein. J'étais une équipe marine qui était le centre d'expérimentation pratique de l'aéronautique navale. Et puis, on travaillait conjointement avec le centre d'essai en vol à Istres. J'étais basé à Istres. Et conjointement aussi avec le centre d'expérimentation de l'armée de l'air, le CEM. Donc, cette équipe-là, on avait une équipe de l'État qui travaillait avec Dassault et on participait au vol de développement. Donc, c'est-à-dire que eux, dans leur développement, évidemment, il y a des tas de vols d'essai et on participait à ces vols d'essai. Et à chaque fois qu'on participait, on donnait notre avis, bien évidemment, sur, sur l'état de l'avion, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme emploi de l'avion sur, alors pour nous, sur le porte-avions, également pour effectuer la mission. Est-ce qu'on a des remarques à faire, à la fois sur, finalement, l'utilisation de l'avion, les qualités de vol, le porteur, mais aussi sur le système d'armes. Et donc, rapidement, j'ai été faire, quelques heures après mon lâcher, j'ai été faire des essais sur porte-avions avec le Rafale, donc dès 1994. Et là, évidemment, l'objet, c'est de voir est-ce qu'on peut opérer cet avion sur, facilement sur le porte-avions, est-ce qu'il est adapté, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit mieux adapté.
Tu as aussi volé sur le E2C Hawkeye et sur le super étendard modernisé. Des beaux baptêmes du feu après la sortie de l'école, quand même. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que le métier est difficile par rapport à ce à quoi on te forme ? Ou au final, l'entraînement est plus dur que ce qui vient ensuite ?
Alors, l'entraînement, tu parles de l'entraînement, j'imagine, à l'EPNER.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, qui est effectivement assez difficile, mais je pense qu'on est bien armé pour la suite. Alors après, si je prends le programme Hawkeye, c'est un programme très intéressant parce qu'on était, nous, Français, tout seuls, à travailler un peu avec les Américains. Mais quand on était chez nous, en France, sur notre porte-avions, on était tout seuls. Voilà, c'était donc la DGA et avec le centre d'essai en vol et la marine. Et l'objet était de vérifier et de voir comment adapter cet avion à l'environnement porte-avions français. C'est quelque chose que je peux dire qui est assez intéressant, je pense, quand on évalue un avion. Contrairement à un pilote opérationnel qui, lui, il a une machine donnée, il a une machine et il se dit maintenant, je dois faire une mission. Comment j'utilise la machine pour faire la mission ? Nous, on a une mission un petit peu différente dans les essais en vol. Si on se dit, voilà, la mission, c'est ça. Voilà la mission. Et maintenant, comment est-ce que j'adapte le porteur, l'avion, pour effectuer la mission ? Parce qu'on est encore dans une phase où on peut modifier l'avion. Donc, on se dit, nous, il faut faire en sorte que, finalement, il faut adapter la machine à l'homme et la mission qu'il va faire, et non pas à l'inverse, l'homme à la machine. Qui est évidemment le rôle, après, de l'emploi opérationnel. La machine, elle est ce qu'elle est, et on va essayer de s'adapter, se former pour utiliser la machine.
Est-ce que quand tu es pilote d'essai, il y a beaucoup de temps que tu passes au bureau finalement et pas dans un avion ?
Ah oui, oui. Oui.
tu fais combien d'heures par an en moyenne ? J'imagine que ça dépend des années, des programmes, mais par rapport à un pilote de ligne, c'est 2 fois moins, 10 fois moins ?
Alors, chez Airbus, donc dans les vols d'essai sur gros porteurs, vols d'essai qui généralement durent, je vais donner une moyenne, mais c'est entre 2 et 3 heures, la moyenne d'un vol d'essai. On fait entre 300 et 400 heures de vol par an.
Okay.
Voilà, donc c'est bien bon 2 fois moins par rapport à un pilote de ligne.
Là, j'aurais même dit que vous en faisiez moins. Je trouve ça beaucoup pour, au final, avec tout le feedback qu'il faut donner après, toute la préparation en amont.
Alors, 400, c'est vraiment des très bonnes années. Mmh. 300, moi, avec le métier que j'avais à la fin, c'était encore moins que ça. C'était plutôt de l'ordre de 250. Mais on ne vole pas énormément. Par contre, on fait aussi des simulateurs. Et on fait surtout beaucoup de réunions. Pourquoi ? Parce qu'on va être, on est impliqué dans le design de l'avion, très en amont. On ne fait pas que les vols pour s'assurer que le produit va répondre aux besoins, mais on est aussi très en amont dans les décisions à prendre pour concevoir un avion, concevoir un système, comment il va être employé. Parce qu'évidemment, dès le début de la conception, il faut savoir comment on utilise le système, sinon la conception va être ratée. Mmh. Si on attend d'être dans l'avion pour dire que ça ne va pas, c'est trop tard.
Et il y a 2 types de pilotes d'essai au final. Il y a les pilotes d'essai qui vont faire de l'ouverture de domaine de vol, si j'ai bien compris. Et il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Bon, toi, tu es pilote d'essai, tu fais de l'ouverture de domaine de vol. Les autres pilotes d'essai, ils ont fait l'EPNER aussi. Ceux qui vont tester l'Airbus A320, MSN, je ne sais quel millier, qui va aller dans une compagnie en Asie, est-ce qu'ils ont besoin de pouvoir ouvrir le domaine de vol ?
Alors, on a plusieurs types de vols d'essai, bien sûr. Mmh. Et même 2 catégories d'activités. On a une première qui est le développement. Sont développés un avion. Et là, on a des vols qui peuvent être avec ouverture de domaine de vol, mais d'autres où il n'y a pas d'ouverture de domaine de vol, mais c'est quand même un avion en développement. Et puis, par exemple, je donne un exemple, on va aller faire de l'automatic landing. hein, des atterrissages automatiques. Le domaine est ouvert, mais on va aller vérifier avec les différentes conditions de vent, de masse, de centrage, comment se comporte. Est-ce que, voilà. Alors, il y en a certains où c'est de l'ouverture de domaine parce qu'on n'a jamais fait. Et d'autres, ça l'est moins. Après, on peut aussi avoir des vols d'essai. On va mesurer de la performance en croisière. Je prends c'est typiquement un vol là où, en fait, on n'ouvre pas un domaine. On va simplement faire de la mesure. Après ça, donc ça, c'est pour les vols de développement où il y a de l'ouverture de domaine, mais pas que de l'ouverture de domaine. Et après, il y a aussi des vols de production. Donc là, c'est les avions qui sortent de chaîne, comme une voiture qui sort de la chaîne de montage. On va l'essayer. Ben nous, tous les avions et chaque avion qui sort de chaîne va être testé selon un programme qu'on a défini pour vérifier qu'il est conforme au type. Hein, sur le plan formel, il y a un type A320, par exemple. L'avion qui sort, MSN temps, est-il conforme au type ? Donc on vérifie avec un programme qui est approuvé, et s'il répond au type, on lui donne son certificat de navigabilité après. Donc là effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir un pilote d'essai qui fait de l'ouverture de domaine. Alors, on a effectivement deux catégories de pilote d'essai, de qualification de pilote d'essai, mais tout le monde fait de tout chez nous. Donc le pilote d'essai dit expérimental, comme le pilote d'essai entre guillemets standard, va faire de la production. Le pilote d'essai non expérimental va aussi faire du développement, mais il ne fera pas d'ouverture de domaine en tant que commandant de bord. Il pourra faire certaines à droite, mais pas toutes. Et les vraies ouvertures de domaine, là, c'est deux pilotes d'essai expérimentaux.
Et les pilotes d'essai non expérimentaux doivent avoir fait l'EPNER et être ingénieurs aussi, ou pas nécessairement ?
En fait, on a deux possibilités. On a soit le pilote qui a fait l'EPNER ou une école approuvée. Alors, on a quatre écoles dans le monde occidental qui sont approuvées. Puis depuis, on a un certain nombre d'écoles. Alors, quand j'ai quatre écoles, c'est l'EPNER, Boscombe Down en Angleterre, Patuxent Rivers pour l'US Navy et l'autre Edwards pour l'US Air Force. Ensuite, il y a d'autres écoles plus petites de pilotes d'essai qui ont reçu l'agrément notamment de l'EASA et qui délivrent des diplômes de pilotes d'essai de catégorie 1, expérimentaux, et de catégorie 2. Alors maintenant, chez nous, ceux qui sont donc de catégorie 2, hein, pilotes d'essai non expérimentaux, soit ils sortent de l'EPNER, effectivement, il y a un cours EPNER comme ça, soit ils sortent d'une autre école, ou alors ils vont faire une formation qu'on fait en interne chez Airbus. C'est une formation, mais malgré tout, qui est sanctionnée par un examen à l'EPNER. Donc en fait, on a un lien avec l'EPNER. Donc on peut dire qu'ils sortent de l'EPNER.
D'accord. Je te propose qu'on ouvre une petite parenthèse sur les 3 années durant lesquelles tu as été directeur des vols au Salon du Bourget, au Salon international de l'air et de l'espace, si je ne dis pas de bêtises. Comment est survenue cette opportunité et comment tu décrirais cette expérience ?
Alors l'opportunité, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne un peu à tout le monde, c'est de saisir toutes les opportunités. J'avoue que moi, j'étais donc pilote d'essai au centre d'essai en vol. Et c'est en 99 que j'ai été embauché comme pilote civil. J'étais marin au centre des Saint-Vol, je suis devenu civil au centre des Saint-Vol avec le même métier et même programme, mais je suis passé civil. Et là, on m'a demandé d'être directeur des vols du Salon du Bourget. Bon, j'avoue que personnellement, je n'avais jamais fait de présentation en vol. Je n'avais jamais été au Bourget en tant que même adjoint du directeur des vols. Donc pour moi, c'était un monde un petit peu inconnu. Et donc ça m'a un petit peu les yeux au début, on va dire ça comme ça. Et bon, j'ai malgré tout accepté, et ça a été une expérience extraordinaire, avec beaucoup, beaucoup de travail, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et ensuite, pourquoi c'est une expérience extraordinaire ? On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais imaginé rencontrer avant.
Moi aujourd'hui.
Non. Et ce sont les directeurs des essais en vol, les chefs pilotes de toutes les grandes compagnies de manufactures, je veux dire, tous les constructeurs aéronautiques. Donc on est vraiment impressionnés et on se dit d'ailleurs qu'on est un peu petit devant eux. Mais malgré tout, on fait le métier, on essaie de faire en sorte que les avions, que les vols se passent en sécurité. C'est ça l'objet du directeur des vols, hein, c'est tout simplement que les vols se passent en sécurité.
Et donc, après cette période à faire de l'essai en vol sur des avions d'armes et des petites parenthèses au Salon du Bourget, tu es ensuite passé dans le civil en 2005 chez Airbus. Qu'est-ce que ça change de passer du monde militaire au monde civil, notamment dans ton domaine, les essais en vol ?
Alors, la transition, elle a été plus souple que ça, dans un sens. C'est qu'en fait, comme je te l'ai dit, en fait, je suis passé civil en 1999, donc 6 ans avant de rentrer chez Airbus. Et en fait, la transition a commencé le jour où je suis arrivé à l'EPNER. Parce que, certes, j'étais militaire, mais déjà, on commençait à rentrer un peu dans un monde civil. Malgré le fait que ce soit la DGA, il y a des civils, c'est le tissu industriel, donc déjà, on commence à sortir du militaire. Après, je suis devenu pilote civil, mais tu l'as bien compris, ça n'a pas changé grand-chose pour moi d'un point de vue métier. C'est le même métier. Et je continuais à aller sur porte-avions, hein, faire des essais en mer sur porte-avions, malgré le fait que je sois civil. Et ensuite, je suis passé chez Airbus. Et là, eh ben, oui, je suis à ce moment-là devenu vraiment un pilote pour une compagnie civile, hein, clairement civile. Alors, donc là, j'avais fait de la bascule complètement. Cependant, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'esprit qu'on a dans l'armée, l'esprit qu'on a notamment dans les escadrons ou les flottilles de la marine, eh ben on le retrouve, on l'a retrouvé. Moi, je l'ai retrouvé au centre des essais en vol et on le retrouve aussi dans notre groupe des essais en vol chez Airbus. Donc, en fait, la transition, elle se fait assez naturellement parce qu'on garde le même esprit.
Parce que vous êtes aussi beaucoup d'anciens du monde militaire, peut-être à se retrouver en tant que pilote d'essai chez Airbus ou pas forcément?
Alors on est beaucoup d'anciens militaires, on n'est pas que des anciens militaires, mais je pense que c'est l'activité aussi qui nous soude. Ainsi, et donc ça nous soude dans l'armée, ça nous soude aussi également dans le civil.
La présentation d'un nouvel appareil et son premier vol, c'est un événement attendu et suivi par beaucoup de monde, par les équipes qui étaient à la conception, à la fabrication, mais aussi par une quantité monstrueuse de fanas d'aéro dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir l'enthousiasme des foules et des médias à l'occasion des vols inauguraux des nouveaux-nés d'Airbus. Tu as d'ailleurs fait le premier vol du Beluga XL, si j'ai bien compris, c'est ça? Au sein de l'équipe des pilotes d'essai, l'engouement est-il le même à chaque apparition d'un nouvel appareil?
Ah, tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Donc, ça l'est pour la compagnie, quand je dis la compagnie, pour tout Airbus. Ça l'est pour le monde extérieur, tous les fans d'aéronautique, mais ça l'est tout autant pour nous. Personne n'est blasé de ce genre de choses. Donc, c'est à la fois une excitation, c'est à la fois un moment dont on est tous fiers. Mettre en vol un nouvel avion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, je pense à Toulouse, tout le monde a vécu le premier vol de la 380. Alors moi, je n'étais pas encore Airbus à ce moment-là, je suis arrivé juste après. Mais tous les modèles qu'on suivit, le 350, le 900, le -1000, le 330 Neo, le Beluga, tout ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire, vécu comme tel par toutes les équipes d'essai.
Après, j'imagine que chacun a peut-être un petit peu ses préférences quand même, c'est naturel. Est-ce qu'il y en a un qui a suscité plus d'attentes pour être piloté et testé parmi tous ces derniers nouveau-nés?
Alors, oui, c'est intéressant. Par exemple, lorsque j'ai pris ma charge de chef pilote chez Airbus, quelque chose qu'on fait, c'est qu'on regarde quels vont être les premiers vols de prototype. Parce que ça, c'est quand même l'aboutissement pour un pilote d'essai, pour un ingénieur navigant d'essai, pour un mécanicien navigant d'essai. Faire un premier vol, c'est quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, que tout le monde rêve de faire. Donc j'avoue qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir faire ça. Et donc, en tant que chef, j'ai regardé, c'était quoi les prochains vols qui arrivaient et qui on allait mettre dessus. On essaie évidemment de ne pas se mettre tout le temps, de mettre les autres, d'essayer de partager ces moments extraordinaires. Et quand on a vu, en fonction de qui était sur tel et tel programme, naturellement, moi, je me suis retrouvé sur le Beluga. Et j'étais extrêmement heureux de faire le Beluga. Pourquoi? Parce que c'est un avion atypique. Quand on le regarde, c'est atypique. Et on se dit, mais il doit avoir des qualités de vol bizarres, cet avion. Ça doit être très, très curieux. Donc ces caractéristiques, moi, ça m'ont vraiment attiré. Et j'étais extrêmement content de faire cet avion-là. Et finalement, j'étais plus content de faire celui-là que si ça avait été un avion plus classique, on va dire. Mais ça ne doit rien enlever aux autres, hein, parce que faire un premier vol de 350, faire un premier vol de 380, surtout le 380, je pense que ça devait être extraordinaire.
J'ai une question qui me vient en cours de route, là. Comment on fait pour rentrer chez Airbus en tant que pilote d'essai? Est-ce que c'est beaucoup de la cooptation? Est-ce que c'est sur dossier? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'il faut avoir fait avant?
Alors, on cherche à embaucher des pilotes d'essai. Je le disais tout à l'heure, au début de l'émission, les pilotes d'essai ne sont pas tous interchangeables. Même s'il y a beaucoup de pilotes qui sont capables de faire tel type d'essai, des essais de performance au décollage, essais de freinage, oui. Par contre, quand il s'agit d'aller vraiment finement évaluer un avion, son emploi, etc., j'ai dit que ça dépendait beaucoup de l'expérience. Donc on essaie d'avoir une expérience assez large, dans les pilotes d'essai, d'avoir des pilotes qui ont fait de la ligne, des pilotes, aussi des pilotes militaires. Et pourquoi les pilotes militaires ? Parce que, on pourra peut-être en parler après, mais on a dans quasiment tous les programmes, on a quelquefois des avions, des vols qui ne se passent pas tout à fait comme prévu, où l'avion va se retrouver dans des attitudes pas prévues, et un pilote de chasse qui a eu l'habitude de se retourner dans tous les sens, il va un peu moins appréhender, et il va être un peu plus apte à récupérer. Mais ça, en fait, ça devient de son background, c'est tout. C'est parce qu'il il a remué l'avion dans tous les sens déjà. Donc on aime aussi avoir des pilotes de chasse, et on a vraiment besoin de pilotes de ligne, parce que l'avion, il est fait pour la ligne, il n'est pas fait pour aller s'amuser en aéroclub. Donc on a besoin de tout ça. Donc quand on recrute, on regarde un peu tout ça. Et ensuite, on va regarder les candidatures. On fait appel à la candidature. On va aussi regarder un petit peu d'où viennent les gens. On essaie d'avoir une diversité. Alors, ce n'est pas que pour avoir des nationalités différentes, c'est aussi pour avoir des gens qui ont opéré dans des mondes un peu différents, avoir opéré en Asie, opéré en Europe, opéré aux États-Unis, c'est quand même assez différent. Donc, on regarde tout ça. La cooptation, non, on essaie de ne pas faire de la cooptation, on essaie de faire quelque chose qui est vraiment juste et objectif. Évidemment, quand on connaît quelqu'un, on dit bah, « tu peux appliquer », et il va appliquer. Il va postuler, et puis ensuite, ben on va retenir, on va être tout un groupe de personnes, de pilotes et aussi des ressources humaines pour vérifier si ce candidat va s'intégrer dans le groupe. Hein. Et pour moi, je mets un accent très très important sur les qualités humaines parce que dans un groupe tel que celui-là, on a besoin que les gens travaillent en équipe. On a vraiment énormément besoin que les gens travaillent en équipe des essais en vol, en équipe avec les bureaux d'études. Donc ça, pour moi, c'est essentiel.
Ça me fait penser un petit peu à l'épisode avec Grégory qui était à la patrouille de France. Il parlait justement de ce moment où on voit en fait si les gens sont adaptables au travail en équipe, s'ils sont adaptables à l'équipe actuelle. C'est un ressenti, mais t'es quelqu'un qui paraît très sympathique. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour rentrer dans l'équipe des pilotes d'essai d'Airbus ou pas ? À la patrouille de France, c'est globalement le cas, si j'ai bien compris, parce que c'est des gens qui vont faire de la représentation, mais aussi qui ont besoin d'être dans une petite équipe très soudée. Est-ce que c'est le cas pour les pilotes d'essai d'Airbus ?
Alors, c'est ce que je disais, hein. On va regarder ce genre de qualité qui sont la capacité de travailler en équipe. Alors, dire, on n'a pas tous les mêmes caractères. Hein. Il y a des gens qui ont des caractères très forts. Il en faut des caractères forts parce que parfois, il faut dire, mais non, ça, c'est comme ça parce que moi, je sais, nous, on sait, parce qu'on sait comment est opéré l'avion. Donc, on a besoin parfois, évidemment, il nous faut du caractère. Mais il faut aussi, et c'est essentiel, avoir des gens qui savent travailler en équipe. Donc on a probablement un peu le même type de soucis. Voilà.
Alors je te propose maintenant de parler un peu plus en détail de la fin du processus de certification d'un appareil. Bon, des essais en vol, on en a déjà pas mal parlé, mais du premier vol notamment. À ce sujet, je recommande fortement à l'auditeur la série de courtes vidéos produites par Airbus sur les essais en vol et disponibles sur YouTube. Ça s'appelle Flight Test Series et les images et les explications sont extra, moi j'aime beaucoup. Il y a pas mal de questions qu'on voulait te poser, mais étant donné que beaucoup d'entre elles ont déjà été traitées dans cette série de vidéos, on a pu se concentrer sur d'autres choses, donc je recommande encore une fois. Arrivé en 2005 à Airbus, tu as dû rejoindre la campagne d'essai en vol de l'A380 en cours de route, comme tu l'as dit, mais tu as ensuite vécu de l'intérieur et en entier la campagne d'essai en vol de l'A350, du 330 Neo, du Beluga XL. J'aimerais bien qu'on revienne sur celle de l'A350 en particulier, qui a fait son premier vol en 2013. Est-ce que tu peux nous raconter cette campagne et quel était ton rôle dans cette campagne d'essai en vol ?
Alors dans cette campagne, on a, et comme pour tous les programmes chez Airbus, on a un ou deux, généralement au moins deux pilotes projet. Donc c'est des gens qui vont suivre le projet du début jusqu'à la fin et qui vont tous les jours être en lien avec le bureau d'études, avec les programmes. Pour vraiment mener à bien ce développement. Ils vont aussi faire des vols, bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls qui vont faire les vols. Les autres participent au vol. Donc moi, je faisais partie des autres, entre guillemets, sur le 350. Et donc, j'ai participé beaucoup à des vols de développement qui, au début, étaient très, très nombreux. Hein. C'est une des années où j'ai fait le plus d'heures de vol, plus de 400 heures, parce qu'on volait beaucoup, beaucoup. Donc là, on a des phases extrêmement intéressantes où on va explorer le domaine de l'avion. Je pense que ça, c'est des vols quasiment les plus intéressants. On va aller accélérer, quand on dit qu'on explore le domaine de l'avion, domaine de vol de l'avion, on va à l'intérieur des limites opérationnelles qui sont les limites après qu'on va donner à l'utilisateur, mais on va au-delà bien sûr, parce qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe au-delà, parce que n'importe qui, on peut sortir du domaine de vol de manière non volontaire, mais on peut en sortir, et si on en sort, comment ça se passe ? Donc là, c'est des vols extrêmement intéressants, qui sont des vols qui peuvent être par exemple à très haut Mach, grand Mach grande vitesse, qui sont des vols assez touchy au point de vue pilotage. Hein. C'est vraiment des vols assez délicats, qu'on fait d'ailleurs en loi directe. Quand je dis en loi directe, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les lois de commande de vol qu'on a dans nos computers et on passe en loi directe où on a directement les gouvernes attachées aux manches. Là aussi, il faut passer par des fils électriques, bien sûr. Mais on a vraiment un avion naturel comme ça.
Comme un avion d'aéroclub, presque.
Presque.
Mais un Mach 0,95.
Voilà, donc là, on a donc des vols qui sont comme ça à grande vitesse. On a des vols à très basse vitesse. On va décrocher l'avion. On décroche des centaines de fois l'avion. Parce qu'évidemment, il faut savoir comment s'y décroche cet avion. On a des vols où on va couper un moteur. On va regarder les vitesses minimales de contrôle avec un moteur en moins. Ce sont des vols intéressants, très près du sol, pour avoir la poussée maximale, très basse vitesse. Donc ça, c'est des vols qui sont un peu délicats, mais super intéressants. On a des campagnes d'essais qui se déroulent ailleurs, et non pas sur Toulouse. Pourquoi ? Parce que c'est, par exemple, pour aller faire du temps froid. Comment l'avion se comporte à moins 30 degrés, moins 35 ? Ben, ça ne se voit pas à Toulouse, donc on va au Canada, par exemple, rechercher ces conditions-là. On va faire des campagnes temps chaud aussi. Donc on amène l'avion... là où il fait très chaud, pour voir comment il va se comporter. Généralement, c'est aux Émirats, mais ça peut être ailleurs. On va faire des campagnes aussi à haute altitude. L'avion, on veut certifier nos avions pour un décollage. Généralement, c'est jusque vers 10 000 pieds. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on... On va vérifier et on va mesurer toutes les performances et vérifier que l'avion peut être certifié avec un décollage à ces hauteurs-là. Donc là, on va en Bolivie, généralement. Donc, on traverse l'Atlantique pour aller là-bas. Donc, en fait, on a un certain nombre de campagnes comme ça à l'extérieur qui sont extrêmement intéressantes. Et voilà. Après, on a des vols très intéressants que vous avez vus, vous verrez hein, si vous regardez les vidéos dont tu parlais, Sébastien. Par exemple, des vols de VMU, où là, on va toucher de la queue au décollage. On met une certaine poussée, qui n'est pas toujours très forte d'ailleurs, généralement assez faible. Et on met la queue sur le sol. Avec un patin hein, qui est pour éviter d'abîmer le fuselage. Et puis, on va regarder à quelle vitesse va décoller l'avion et si on arrive à le sortir de l'effet de sol. Ça, c'est des vols très délicats, très intéressants. Et pour un pilote, c'est passionnant.
Tu parlais justement du petit patin qui protégeait la queue de l'avion pendant le test VMU. À quel point vous faites souffrir vraiment les machines ? Est-ce que la structure d'un avion d'essai est vraiment beaucoup plus fatiguée que celle d'un avion de ligne ?
Oui, les plus fatigués. Alors, on va faire des facteurs de charge, il y en a un petit peu. On va parfois, dans des conditions climatiques qui sont un peu extrêmes, quand on va faire des vols de givrage, on a deux types de vols de givrage. Hein, évidemment, notre avion, il faut qu'il soit capable de voler en toutes conditions et il soit armé contre le givrage. Donc, on va faire du givrage dit naturel. On va dans des nuages où ça givre, volontairement, et on va prendre de la glace, et on regarde comment l'avion se comporte. Et ensuite, on va d'ailleurs aussi le décrocher après pour vérifier à basse vitesse, tiens, il se comporte comment une fois qu'il a tout ça. Et puis, on a aussi des vols où on va mettre ce qu'on appelle des formes de givre, c'est-à-dire qu'on va calculer, les ingénieurs du bureau d'études vont calculer c'est quoi la forme du givre sur les bords d'attaque, par exemple. Une fois qu'ils ont calculé ça par des modèles mathématiques, on va appliquer de la mousse qui a cette forme-là, et on va le coller tout simplement sur le bord d'attaque, et on va faire des vols comme ça. Voilà. Donc, et si je disais ça, c'est que les vols de givrage naturel, ben, ça se termine quelquefois dans des nuages type un peu TCU, donc où ça bouge pas mal, où on prend la foudre. Voilà, donc c'est assez intéressant, mais là, les machines souffrent. Il y a par exemple aussi nos vols de VMCG. Donc, la VMCG, c'est la vitesse minimale de contrôle au sol, au décollage. Vitesse en dessous de laquelle, si on perd un moteur, on ne contrôle pas l'avion latéralement et donc il est impératif d'interrompre le décollage. Donc, c'est cette vitesse-là qui sert à l'établissement de la vitesse de la V1 minimum, à la vitesse de décision minimum. Mais quand on fait ces vols-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est plein pot, toga, donc vraiment, il n'y a pas de flex, c'est plein pot sur les deux moteurs. Et à la vitesse qu'on a calculée, et ensuite on va en faire plusieurs pour tâtonner et aller chercher la vraie vitesse, et bien on va couper le moteur, mais on ne va pas le réduire, on va le couper directement avec le fuel flow. C'est-à-dire qu'on coupe le robinet, et là l'avion il était plein gaz, vraiment maximum de puissance, et d'un coup on lui coupe le carburant. Ça fait un boom qui est assez énorme. On fait ça aussi en vol. Et en vol, ça fait des choses assez sympas, ça secoue l'avion dans tous les sens. Voilà. Donc oui, on fait souffrir les machines, ça c'est clair.
Donc compliqué de vendre un avion d'essai, en tout cas un des premiers, à une compagnie aérienne, quoi.
Alors ça dépend des... Généralement, quand on fait une campagne d'essai, on a plusieurs avions et qui sont dédiés à différents types d'essais. Ça permet comme ça de mettre des installations d'essai qui sont un peu dédiées. Et donc, il y en a qui ont des installations d'essai très lourdes pour faire les vols d'essai qui requièrent cette installation d'essai-là assez lourde. Il y en a d'autres qui l'ont un peu moins pour faire des essais plus cabine, par exemple. Donc ça dépend un petit peu. Et parfois, on vend. Et même généralement, on a toujours un ou deux prototypes qu'on arrive à remettre à l'état de la série et à vendre chez un client.
Est-ce que tu as déjà fait des vols d'essai pour des motifs un peu cocasses? Enfin, j'ai un exemple, un ami qui m'a parlé d'un vol d'essai qui avait été fait quasi uniquement pour voir si la moquette se décollait avec la pressurisation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, tu me diras, tu me confirmeras. Est-ce qu'il y a des vols parfois où tu vas tester juste un tout petit truc?
Alors oui, la réponse est oui. Alors les bulles dans la moquette, c'est un vrai problème. Et ça paraît idiot, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il y a dans la cabine la moquette qui est collée par terre, quelquefois sur des murs, sur des pans de murs, et elle est simplement collée. Si jamais il y a une bulle d'air qui est prise, un peu d'air qui est prise derrière, ça ne se voit pas au sol. Par contre, une fois qu'on va monter en altitude et que la cabine va dépressuriser doucement, même si on pressurise la cabine, l'altitude cabine, elle monte sur un 320, elle monte à 8000 pieds, sur un 350, elle monte à 6000 pieds. Et bien entre 6000 pieds et zéro, le sol, il y a une différence. Donc la bulle d'air, elle va avoir tendance à faire de l'expansion, entre guillemets, à gonfler. Et donc, on va voir apparaître une bulle sur la moquette. Donc oui, on fait des essais pour ça. Et alors maintenant, on a des techniques, on a inventé une technique pour essayer de repérer, d'arriver à réparer ça au sol et ne pas avoir besoin de revoler pour ça. Mais c'est arrivé très très souvent, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres essais pour des motifs comme ça qui pourraient paraître un peu cocasses ou au final, ça reste un exemple qu'on donne quand on veut parler de ce genre de vol?
C'est sûr que parfois, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? On a quelquefois des mesures de température. Température, attendre la stabilisation d'une température, que ce soit en cabine ou que ce soit dans certaines parties de l'avion à l'extérieur, quand j'ai à l'extérieur qui ne sont pas pressurisées, il peut nous arriver d'avoir besoin de faire un vol très long, à haute altitude, pour avoir le temps de voir cette température se stabiliser. C'est sûr que quand on traverse l'Atlantique, on fait 8 ou 9 heures de vol, c'est pas pareil que si on en fait une heure au niveau de croisière. Et donc, en une heure, les températures n'ont pas forcément le temps de se stabiliser. Et donc, il peut être nécessaire d'aller faire des vols longs rien que pour ça.
J'imagine qu'il y a des vols qui sont un peu plus compliqués. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'un moment, d'un essai en vol où ça ne s'est pas passé comme prévu?
Alors, des vols où ça ne s'est pas passé comme prévu, il y en a plusieurs, mais dont je n'ai pas fait partie, donc je ne vais pas les raconter. Mais... ce que je peux dire, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a eu, et je pense que c'est le cas de tous les constructeurs, on a toujours eu des vols où on a rattrapé ça un petit peu de justesse, on va dire. Non, mais c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé comme prévu, mais l'équipage d'essai était là, entraîné, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un équipage d'essai, c'est que après on a ramené l'avion comme il faut. Mais oui, il arrive parfois des choses imprévues qui sont un petit peu délicates à gérer. Voilà.
Je te propose de faire une petite pause avec le segment questions-réponses rapides. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe. En gros, je vais te poser des questions. Il faut répondre rapidement A ou B. Ou alors, c'est une réponse simple à donner. Et puis, si la réponse n'est pas si simple que ça, c'est pas grave. Tu pourras donner plus de détails. Ma première question, c'est tu préfères être directeur des vols au Salon du Bourget ou présenter la 380 en meeting?
Présenter la 380. Pour autant, j'ai beaucoup apprécié d'être directeur des vols.
Mmh. Ça veut dire que c'est présenté à la 380, c'est vraiment bien, alors si c'est encore mieux. tu préfères la combi orange des essais en vol ou verte de l'aéronaval?
Là, je joker, parce que avec le recul, j'adore le métier que je fais en ce moment, mais aussi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de voler dans la marine sur porte-avions. Donc c'est pour ça que je joker. Alors je vais te dire, donner une autre réponse peut-être, la combinaison orange sur porte-avions.
Ah, j'avais pas pensé à celle-là, c'est vrai. Pas mal. Tu préfères, on va rester dans les porte-avions, apponter de nuit ou faire le test VMU sur un avion de ligne?
Tu me poses vraiment des questions délicates. Parce
ah,
que...
ben c'est fait exprès.
Parce que vraiment, l'appontage de nuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais quand même dire VMU. Je vais quand même dire VMU, malgré tout. Pourquoi? Parce que L'appontage de nuit, c'est une performance un petit peu personnelle. On est tout seul dans l'avion et on se bat un peu contre soi-même, contre les éléments. Mais ça procure une grande satisfaction. Le VMU, c'est un vol très délicat, c'est un travail en équipe. Moi, j'adore le travail en équipe. Et je pourrais raconter deux secondes, mais si tu veux, dans le cockpit, quand on fait une VMU, on a chacun une tâche complètement différente et on fait chacun confiance à tous les autres. Et c'est extrêmement important. Il y en a qui s'occupent que du pitch, hein, donc l'assiette. L'autre s'occupe que du roulis, et le latéral, vérifier que la sécurité globale de l'avion en regardant dehors est assurée. Il y en a un autre, le mécanicien d'avion, qui s'occupe que des moteurs et de vérifier que tout se passe bien. Et on a l'ingénieur d'essai derrière qui regarde, s'assure qu'on est en train de monter, parce qu'après l'envol, ça monte tout doucement généralement quand on a des faibles poussées. Et l'objet, c'est de vérifier qu'on va réussir à sortir de l'effet de sol, donc à monter suffisamment pour sortir de l'effet de sol, qui est en hauteur la moitié de l'envergure de l'avion. Voilà, donc juste pour dire que voilà, ça c'est un vol, à mon sens, assez extraordinaire de travail en équipe et de confiance dans le reste des membres de l'équipe. Et de confiance aussi, je devrais le dire, dans tous les gens qui ont préparé l'avion, qui ont préparé les essais. C'est extrêmement important. Mmh.
Les fameux expérimentateurs d'essais dont tu parlais au début, ou pas que même?
Non, alors moi je pensais plutôt aux équipes sol et au bureau d'études.
D'accord. Bon, tu as volé sur une quantité d'avions assez impressionnante, mais lequel manque cruellement à ton palmarès? Est-ce qu'il y a un avion sur lequel tu as vraiment envie de voler?
Le Concorde.
Ah, ça va être compliqué.
Très compliqué.
Peut-être le Boom Supersonic s'il voit un jour la lumière du jour. Et pour finir, forcément, Airbus ou Boeing?
Airbus.
Ah, on pouvait s'y attendre à celle-là.
Alors, je dis Airbus, et là, je me place côté pilote. Je pense que les deux compagnies, Airbus et Boeing, font des avions tous les deux extraordinaires. Donc, je crois que pour le pilote, les avions Boeing sont des très bons avions aussi.
Mais ça me fait penser, quand on s'était appelé avant cet épisode, tu me disais que au début, instinctivement, tu préférais les manettes de Boeing qui bougeaient en fonction de ce que faisait l'automanette ou les manches qui étaient synchronisées. C'est pas le cas chez Airbus. Et maintenant, tu préfères ce que fait Airbus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît?
Alors, j'essaie d'avoir une approche un peu pragmatique. Comme pilote, dans la marine ou sur porte-avions, j'ai fait les deux. Sur Super Étendard, on avait une automanette que pour l'appontage en ligne droite, hein, même pas en virage parce qu'il n'avait pas cette performance-là, mais tous les appontages de nuit, les appontages de nuit, on les faisait à l'automanette, normalement, si tout allait bien, et les appontages de jour, par mauvais temps, en ligne droite, on les faisait aussi à l'automanette. La manette bougeait. Et c'est vrai que j'avais la main sur la manette et je sens la manette bouger, ça réagit comme je veux. Sur Rafale, ça ne bougeait pas. Sur Rafale, on met la manette à un endroit, on peut la bouger à plusieurs endroits, mais la manette n'est pas motorisée comme elle l'est sur le Super Étendard. D'un point de vue sensation, c'est vrai que j'aimais bien voir cette manette qui bouge. Sur Airbus, la manette, elle n'est pas motorisée, donc elle bouge évidemment comme sur Rafale, mais on la met dans un cran, on engage l'automanette, et ensuite c'est l'automanette qui va gérer la poussée. Donc on n'a pas ce retour avec la main sur la manette de gaz, on n'a pas ce retour. Cependant, maintenant, il faut regarder un petit peu plus globalement. On a une simplicité des systèmes. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue sécurité, eh ben, le bilan il est nettement positif pour les manettes qui ne bougent pas avec ce domaine. Ça demande de piloter un peu différemment. Ça veut dire qu'on n'a pas ce retour naturel sans regarder, sans réfléchir avec la main qui est sur les manettes. Quand tout va bien, et ça demande de peut-être un peu plus contrôler sa vitesse, ses paramètres, c'est vrai, mais ça c'est quelque chose qu'il faut de toute façon faire, et au résultat, on a un certain nombre d'incidents avec des manettes qui bougent, qui sont telles que, au résultat, sans entrer plus dans les détails, au résultat, je préfère finalement le système tel qu'il est là, on ne veut pas dire que je préfère les manettes qui bougent pas, je préfère globalement le système d'un point de vue sécurité des vols, en fait on est meilleur.
Et par rapport aux manches qui ne sont pas synchronisées sur les Airbus, c'est pareil, il y a des meilleurs résultats au niveau de la sécurité par rapport à ça?
Il y a des modes de panne, c'est-à-dire que ce soit les manches ou les manettes, on a des modes de panne. C'est-à-dire quand on fait de la certification, il faut analyser tous les modes de panne. Qu'est-ce qui peut tomber en panne et c'est quoi les conséquences? Et on a des modes de panne avec des manches ou avec des manches latéraux qui sont différents. Et on a aussi un effet sur le poids quand même. Hein, l'avion, on cherche à économiser la masse de l'avion, puisque la masse de l'avion a un impact directement sur la performance et sur la consommation. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je suis très fier de ce qu'on fait chez Airbus avec les manches latéraux où on arrive à vraiment avoir un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé sur notre avion. Pas seulement grâce à ça, mais ça y participe aussi.
Donc le niveau de sécurité reste très bon et on y gagne un petit peu en masse. Enfin bref, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça marche bien quoi. ça va donner un peu de grain à moudre à tous les gens qui en discutent au bar de l'aéroclub.
Sûrement.
On débute maintenant notre approche sur la fin de cet épisode. J'aimerais parler avec toi d'un sujet qui tient à cœur beaucoup de passionnés de pilotage, le futur des pilotes dans les prochaines générations d'avions. Je vais commencer par un court monologue pour faire un petit bilan de ce qui se passe et de ce que je lis dans les communications officielles. Airbus communique régulièrement sur ses travaux concernant l'automatisation des postes de pilotage. Récemment, en 2020, Airbus a mené à bien son projet ATOL, Autonomous Taxi Takeoff and Landing. Corrige-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, il s'agissait de montrer la capacité à effectuer un vol entier en automatique en utilisant de la reconnaissance d'images basée sur du machine learning et de l'intelligence artificielle pour les phases de roulage, de décollage ou d'atterrissage. L'ambition annoncée est d'aider les pilotes à moins se concentrer sur l'opération de l'avion, mais avoir plus de ressources à dédier à la prise de décision stratégique et à la gestion de la mission. On imagine bien que beaucoup de travaux sont en cours et que cela n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg. Un peu plus récemment, Marc Rocher, le patron d'Air Caraïbes et de French Bee, disait au Paris Air Forum que la décision était déjà prise quant au passage au monopilote pour la prochaine génération d'avions court et moyen courrier. Il envisage le moyen courrier monopilote et la fin des équipages renforcés, donc les équipages long courrier qui partent à plus de 2 pilotes, 3 ou 4, dans environ 10 ans, voire moins. J'en viens donc à ma question sur ce sujet. À quel point le métier de pilote va changer dans la prochaine génération d'avions Airbus, s'il est toujours prévu dans la prochaine génération d'avions Airbus ?
Alors, le premier élément de réponse que j'aurais donné, c'est que le pilote, il est au cœur du pilotage aujourd'hui, au cœur des avions, des opérations, et il va rester au cœur des opérations. Je crois que c'est super important. Cependant, on s'aperçoit, si on regarde l'histoire, comme tu l'as fait un petit peu, que depuis un certain nombre d'années, on a évolué en génération d'avions. Il y a eu la première, la deuxième, la quatrième. Aujourd'hui, on a la quatrième génération d'avions avec les commandes de vol électriques, toutes les protections du domaine de vol. Et beaucoup, beaucoup d'aide qu'on a apporté, d'assistance qu'on apporte aux équipages. En fait, on a énormément amélioré à la fois l'opérabilité de l'avion, mais aussi la sécurité des vols. Et ça, c'est, je veux dire, il n'y a pas photo. Quand on regarde l'amélioration drastique de la sécurité des vols au fil des années avec ces améliorations de technologie, je veux dire, ça ne va pas nous empêcher de... on ne doit pas rougir d'abord, et surtout, on doit continuer à essayer de continuer dans cette voie-là. Parce que je pense que là, on est tous demandeurs, même si d'un point de vue pilotage, on se dit, on en fait un petit peu moins, c'est un peu moins nous, c'est un peu plus la machine. On est tous en train de regarder comment améliorer la sécurité des vols. Je pense que ça, c'est une démarche qu'on doit tous avoir. Donc oui, on automatise de plus en plus. Hein. Avant, le pilote automatique n'existait pas. Ensuite, on l'a introduit pour des phases très simples de croisière. Et puis maintenant, on l'a quasiment dans toutes les phases de vol. On ne l'avait pas pour le décollage. Donc là, c'est vrai que le taxi... Et le décollage automatique, on a réussi à le faire lors de ce vol-là. Et tu as raison, l'atterrissage automatique, on le faisait déjà sur un ILS. En revanche, là, on l'a fait sur de la reconnaissance d'image. Alors, encore une fois, quand on regarde les statistiques d'accidents ou d'incidents en vol, on s'aperçoit que le décollage et l'atterrissage, ça reste des phases assez délicates. Et tout ce qu'on peut faire pour aider le pilote, aider les opérations, je pense que c'est une bonne chose. On aurait envie, enfin moi c'est comme ça que j'aimerais, c'est que les automatismes, ils nous aident quand ça devient très difficile. Mais en fait, ils sont là, on va dire dans le passé, ils étaient là quand c'était facile. Et simplement, ils nous permettaient de nous décharger. Aujourd'hui, un atterrissage automatique, il se fait dans des conditions qui sont plus limitées en termes de vent de travers, ou de vent, on va dire de manière générale, hein, de vent de phase de travers ou arrière, plus limitées que ce qu'on autorise à faire à la main. Donc ça veut dire que finalement, quand c'est plus difficile, on demande au pilote de le faire. S'il peut le faire, très bien. Mais je pense que si on peut arriver à améliorer finalement ce pilotage et à permettre qu'un pilote qui est fatigué, qui vient de traverser l'Atlantique ou faire un très long vol, si on peut lui permettre de se décharger et de simplement de surveiller, et prêt à reprendre bien sûr, prêt à reprendre et surveiller comment ça fonctionne, je pense qu'on va améliorer beaucoup les opérations et la sécurité des vols. Voilà, donc effectivement, on améliore et ces améliorations techniques, ces technologies qu'on met dans les avions, eh bien on va continuer à le faire. On a fait, je peux donner un exemple encore, quelques exemples qu'on a fait récemment sur le TICAS automatique. Quand je dis TICAS automatique, c'est-à-dire que c'est le pilote automatique qui va automatiquement suivre la trajectoire optimum du TICAS, donc d'évitement d'un autre avion. Ben, je pense que ça personne ne pourra dire que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que quand on est en croisière, tout d'un coup, on est confronté à un TICAS, l'effet de surprise, le gain qu'on peut avoir aux commandes, tout d'un coup, on se retrouve à faire quelque chose qui est difficile à faire, parce que suivre une trajectoire de TICAS, c'est difficile. Ben, si le pilote automatique peut le faire, c'est quand même une amélioration très, très nette de la sécurité des vols. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a introduit. On a introduit aussi ce qu'on appelle le ROPS, qui est le Runway Overrun Protection System, qui donc va permettre de dire, avec des calculs en temps réel, de dire au pilote, là, si tu veux continuer à te poser, la piste est trop courte. Elle ne lui dit pas de remettre les gaz, hein. Il dit simplement, la piste est trop courte. À toi maintenant de prendre la décision, remettre les gaz, ou alors si tu n'as plus de pétrole, te poser. Enfin, mais au moins, tu prends la décision en connaissance de cause. Voilà. On a mis en place sur le 350-1000, sur le premier avion, la descente d'urgence automatique. Donc, c'est-à-dire que si, en cas de dépressurisation et en cas de non-action de l'équipage au-delà de 15 secondes, l'avion va tout seul se mettre en descente. Il va se mettre en descente, il va faire l'ouverture à droite, revenir parallèle, hein, comme la procédure le demande. Il va mettre 77-00 au transpondeur, il va sortir les aérofreins, il va accélérer à la vitesse maximum et il va descendre à l'altitude de sécurité, soit la Mora, soit 10 000 pieds. Et là, il va rentrer les airbrakes tout seul, il va mettre l'avion à vitesse faible. Et prêt à ce que l'équipage reprenne conscience et reprenne le contrôle de l'avion. Donc, tout ça, c'est des choses qui améliorent. Ça a été soufflé, ou l'idée est venue quand on a vu certains accidents, notamment un où l'équipage est mort, pendant la croisière, avec suite à une dépressurisation. Donc, voilà des moyens d'amélioration, d'assistance de l'équipage qui améliorent la sécurité des vols. Donc, ça, on va continuer. Alors, tu as évoqué les équipages réduits. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de programme lancé sur ce genre de choses. En revanche, on travaille dessus. On travaille sur quoi ? On travaille de voir notamment comment est-ce qu'on peut améliorer et augmenter la résilience de l'avion au repos des équipages. Aujourd'hui, quand on part à deux, on fait un vol qui fait moins de 8-9 heures, on est à deux pilotes seulement, mais il ne faut pas se leurrer, il y a un pilote qui se repose à un moment donné, parce qu'on ne peut pas, surtout quand on trace l'Atlantique de nuit, du sens ouest-est, c'est assez difficile, il y a toujours un pilote qui... Enfin, à chaque fois, il faut prévoir des temps de repos de l'équipage. Donc pendant ce temps-là, il ne reste plus qu'un seul pilote, vraiment prêt à faire quelque chose dans le cockpit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie, on en est à l'étude pour le moment, comment est-ce qu'on peut arriver à rendre l'avion plus résilient, donc qui répond, qui aide plus facilement l'équipage, le pilote qui pourrait se retrouver tout seul, à gérer une panne. Alors, la descente automatique d'urgence est un bon exemple. Hein. C'est que si ça arrive, le pilote est tout seul, soit il laisse faire l'avion, soit il le fait lui-même en semi-automatique. En fait, il va sortir les aérofreins et ça va descendre de la même manière tout seul, donc on aide l'équipage. Et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, dans certaines phases de vol, on puisse permettre à l'équipage de bien se reposer pour être frais à l'arrivée. Voilà. Alors après, l'avion monopilote, on n'y est pas encore. Mais on travaille, oui, sur la réduction du nombre de pilotes dans le cockpit, dans des phases bien identifiées, et c'est que la croisière. Il y aura toujours deux pilotes au décollage, et pendant la montée, il y aura toujours deux pilotes pendant la descente et l'approche. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir des équipages frais et dispo pour l'arrivée.
Et quand tu dis toujours, c'est-à-dire pendant combien de temps encore, on ne sait pas.
Alors déjà, quand on regarde les avions qui sortent en ce moment, c'est des avions qui vont voler pendant 30-40 ans. dans les 30-40 prochaines années, c'est sûr que les avions qui sortent maintenant, ils vont voler comme ils volent aujourd'hui. Donc on aura au moins deux pilotes dans l'avion.
Et j'ai entendu plusieurs fois des connaissances, ou en tout cas des connaissances de connaissances qui bossent en tant qu'ingénieurs chez Airbus, qui disent qu'au final, l'avion, bon, c'est une coque, entre guillemets, qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut devant. Est-ce que c'est envisageable qu'un A320 devienne monopilote ou devienne un avion sans pilote, devienne un drone?
Alors, je pense qu'il faut... L'exercice est peut-être difficile à faire, mais il ne faut pas raisonner avec les avions d'aujourd'hui sur des concepts futurs. Parce qu'un avion d'aujourd'hui, un A320 monopilote, comme ça, sans évolution, ça ne marche pas. D'accord ? C'est donc important de se dire... Il faut avoir des réflexions, si on veut anticiper le futur, il faut avoir des réflexions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité et l'opérabilité de l'avion ? Après, ce que ça va donner dans le futur, je ne sais pas encore. Mais c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Donc on a des études forcément à mont, sinon on va être en retard et sinon on ne va pas pouvoir lancer le programme qui va bien le jour où on s'aperçoit que c'est prêt. Si on veut qu'un jour la technologie soit prête, il faut travailler dessus.
Et donc, bon, encore une question difficile à répondre, mais est-ce que tu recommanderais à quelqu'un aujourd'hui de se lancer dans une carrière de pilote de ligne, finalement ? C'est encore de l'avenir, ce métier, pendant un moment suffisamment long pour vouloir en faire une carrière ?
Ah ben bien sûr. Je te le disais, c'est-à-dire que déjà, nos avions, les avions qui sortent aujourd'hui, ils sont pilotés à deux et ils vont rester pilotés à deux. Donc ça, c'est sûr que le métier a de l'avenir. Et encore une fois, je l'ai dit au début, je pense que... pour nous, le pilote et l'humain est au cœur de l'opération de l'avion et il va le rester. Ce qui est important, et je pense quand on réfléchit, de penser à réduire le nombre de pilotes dans un cockpit, dans certaines phases de vol, évidemment, on s'intéresse, on regarde et l'automatisation des cockpits, des avions, c'est facile de voir, lorsqu'il y a un incident, quelles ont été les erreurs des pilotes. C'est facile, on se dit, bon, on va se protéger, on va mettre un automatisme. Ce qui est beaucoup moins évident, c'est de se dire, de voir quels sont les scénarios où les équipages ont rattrapé quelque chose. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis, attention, le pilote, il reste au cœur de l'avion. Et nous, on a aussi ce souci-là de s'assurer qu'on capture bien les événements où l'avion a eu quelque chose qui n'est pas passé normalement. Et grâce à l'équipage, ça n'a pas donné lieu à un événement. Alors, ils sont plus difficiles à capturer, parce qu'évidemment, il n'y a pas trop de compte-rendu. Mais il faut toujours qu'on garde ça en tête, et on garde ça réellement en tête, pour s'assurer qu'on ne va pas introduire un risque supplémentaire.
Oui, bien, ça va peut-être rassurer pas mal de jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer là-dedans, mais qui ont peut-être parfois des doutes sur l'avenir du métier, entre guillemets. On arrive à la fin donc de cet épisode, et comme c'est devenu une tradition dans l'expérience Shiban, je te propose de nous raconter une anecdote, un moment aéronautique qui t'a marqué et qui peut être instructif, divertissant ou inspirant pour nous.
Voilà, alors quelques expériences intéressantes, moi c'est des souvenirs qui m'ont vraiment marqué. Je vais commencer par mon premier vol sur étendard. Donc l'étendard, c'est un avion monoplace, il n'y a pas de biplace. Donc le tout premier vol, c'est tout seul. C'est assez extraordinaire. Bon, on fait d'abord un roulage, une accélération arrêt. Et ensuite, on va sur une piste un peu longue. À l'époque, j'étais hier. Et donc hier, la piste est un peu trop courte, 1800 et quelques mètres. Donc pour un lâcher, c'est pas terrible. Donc on a été à Nîmes, et piste plus longue. Et puis le premier décollage, avec un autre avion dans l'aile qui nous suivait, un instructeur qui est dans un autre avion. Et se retrouver tout seul sur un avion comme ça, complexe. Bon, maintenant, il paraît très, 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 très vieillot, hein, des cadrans un peu partout. Sentir le moteur, on a vraiment l'impression d'être assis sur un réacteur. Ça, c'est, pour moi, c'est un souvenir qui va rester dans ma mémoire jusqu'au dernier jour, je pense. Après, j'ai eu la chance de voler sur plein de machines superbes, mais il y en a atypiques, j'ai envie de dire. Pour moi, le Canadair, c'était atypique. La première fois qu'on se pose sur l'eau avec un avion, c'est quand même assez surprenant. Donc on se pose sur l'eau, et quand on va réduire la vitesse, bah, tout d'un coup on commence à avoir des embruns qui arrivent sur le pare-brise, on met l'essuie-glace, et puis ça y est, on est dans un bateau. Donc on passe d'un avion à un bateau. Pour moi, ça a été fantastique. J'ai eu la chance de faire pas mal de vols ensuite de maintenance des Canadair, et j'avoue que c'est resté un avion mythique pour moi. Et puis évidemment, un premier vol, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça aussi, et quand je... Pour moi, ce n'est pas seulement le vol, c'est toute la préparation qu'on avait avant, une équipe soudée, une équipe, on a fait des simulateurs, des heures et des heures et des dizaines et des centaines d'heures de simulateurs pour avoir les quatre pannes, pour mettre au point les commandes de vol. Puis enfin, on se retrouve en vol. Je peux dire que le décollage, là, on est assez... Il y a pas mal d'émotions. Mais avec ça, il faut rester très concentré, professionnel sur ce qu'on fait, pas penser au reste. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand même.
Et là, tu penses à une machine en particulier?
Ben là, je pense au Beluga sur lequel j'ai fait le premier vol, oui. C'était celui-là.
Oui, bien, c'est une belle façon de conclure cet épisode. Merci beaucoup, Christophe, pour ton temps, d'être venu, de t'être déplacé pour venir nous voir à l'ENAC Toulouse. Bon, j'enregistre cet épisode avec Maxence de l'équipe L'Expérience Shiban à côté de moi et on a passé un super moment. J'espère que l'auditeur aussi. Et je tenais à remercier Benoît Dill, un ami qui a réussi à nous mettre en contact avec toi. Et j'encourage les auditeurs à nous mettre en contact avec des invités inspirants comme toi.
Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt.
Et bon vol.
Merci.
Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'Expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses, de couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants, et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon pour un don mensuel avec des contreparties intéressantes pour toi, ou nous faire un don ponctuel via PayPal. Les liens sont en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Allez, prends soin de toi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion.